cinéma. C'est qui a extrêmement bien fonctionné puisque on en a eu 5 épisodes, alors que d'un point de vue commercial par exemple, un projet similaire porté par la même équipe quasiment, Lone Ranger, donc n'a pas eu de suite. Le corpus est conséquent, c'est ce qui m'intéressait, ça a été une des premières caractéristiques de ce choix, c'est-à-dire prendre un seul long métrage face à des gens qui étudient 7 ou 8 saisons de série télé, c'est toujours un peu difficile. Donc là, j'ai 5 très longs métrages à me mettre sous la dent, avec une dominante cyclique. Bien sûr, on peut les voir séparément, mais il y a quand même des chaînages très forts, notamment dans les scènes post-génériques, qui ont toujours un fort caractère de préfiguration dans la manière d'appeler donc un épisode et de faire des rappels d'un fil narratif à un autre. Il me fallait aussi une diégèse qui fonctionne sans portail, parce que bien entendu, étudier histoire et fantasy dans le monde de Narnia, c'est entre guillemets trop facile. Dès lors qu'on a deux mondes qui cohabitent, ou alors si on a carrément un monde secondaire, la question des articulations, c'est pas trop facile, mais disons, c'était pas mon sujet. Là, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un univers qui se construit en continuité entre des villes historiques comme Londres, Port-Royal, Cadix, etc., et puis des lieux extrêmement fantastiques de l'autre côté. Donc cette continuité diégétique m'intéressait. Et puis, le caractère déterminant, ça a été surtout l'utilisation du matériau historique, à la fois une histoire des faits et une histoire des représentations, des idées, du folklore, qui fait l'objet donc d'une exploitation alors, très hollywoodienne, très Disney, bien entendu. Les historiens qui réagissent au contenu de Pirates des Caraïbes font souvent des sauts vertigineux vers le plafond lorsqu'ils voient les erreurs, les anachronismes, les erreurs de géographie, etc. Mais ça n'est pas trop la question, c'est plutôt comment on peut nourrir une promesse de fantasy historique. J'ai bien entendu les remarques de Christian Schellbourg hier sur la question des genres fictionnels et l'agacement que ça peut engendrer. Mon point de vue est assez candide sur cette question-là, c'est-à-dire j'essaie de problématiser. Mon but n'est pas, bien entendu, de créer des cases étanches, et la fantasy, on sait, s'y prête extrêmement mal en plus, puisque c'est une construction tardive qui s'est faite à travers des processus éditoriaux, etc., d'une grande complexité dont je ne suis pas expert. Mais la question est surtout, quelles sont les clés analytiques qui permettent, ou non, hein, puisque vous n'êtes pas obligé, bien entendu, d'être d'accord avec moi, de considérer qu'on est face à une œuvre de fantasy historique. Il n'y a pas d'elfes, de nains, de dragons. Ça, on est d'accord. Néanmoins, on a d'autres ingrédients, d'autres questions, d'autres thématiques qui me permettent d'argumenter en ce sens. La vision des genres en fiction, au cinéma ou ailleurs, j'essaie de la voir de manière pragmatique, c'est-à-dire dans un dialogue entre les studios qui font des annonces de genre, notamment à travers des bandes-annonces, et l'horizon d'attente que ça construit chez les spectateurs, qui peut être ensuite donc déçu ou non. Donc j'essaie d'avoir une vision un peu dynamique de ces questions de genre et de travailler beaucoup sur la notion de promesse. Donc double promesse lorsqu'on parle de fantasy historique, l'idée qu'on va avoir un ancrage notamment onomastique, on aurait très bien pu dire on crée une espèce de Caraïbes en minuscule dans laquelle on a des repères mais finalement on ne nomme rien ni personne et donc on est dans l'attraction foraine, hein. Simplement on a des pirates de part et d'autre. Là au contraire on a des ancrages historiques assez intéressants à suivre, et puis bien entendu une dimension de surnaturel dont l'une des phrases les plus célèbres, hein, commencez à croire aux histoires de fantômes, vous en vivez une, marque le premier épisode. On va examiner les éléments diégétiques et les choix narratologiques qui ont été accomplis sur ce cycle. Alors désolé du côté un peu lourdingue de ce tableau, mais ça vous permet d'avoir la visibilité sur les dates et les réalisateurs de chaque opus. Donc on a systématiquement une composante fantastique qui réside sur un attelage bizarre de deux éléments relativement familiers dans le folklore maritime. Par exemple, le vaisseau fantôme est maudit parce que l'or des Aztèques n'est pas complet. Il faut reconstituer le trésor volé par Cortés aux Aztèques pour lever la malédiction. Le Hollandais volant commande au Kraken. Le capitaine du Hollandais volant peut lâcher le Kraken sur ses adversaires. Donc, bien entendu, on a des procédés particulièrement bizarres de juxtaposition de légendes qui, par ailleurs, nous sont relativement familières. Le Hollandais volant, donc, qu'on retrouve dans le troisième épisode, jusqu'au bout du monde, donc, est censé mener les âmes perdues, hein, les corps perdus en mer, vers leur ultime séjour. Et on assiste à la libération de la déesse Calypso. Alors, Calypso est-elle une déesse? En tout cas, c'est comme ça que c'est précisé dans la Diégèse. Qui est capable donc d'activer une troisième composante imaginaire très très forte également, qui est celle du Maelstrom. Et dans le quatrième, donc, on réactive la fontaine de Jouvence, mais il faut une larme de sirène pour caler son opération magique. Et par ailleurs, on a un Barbe Noire qui est un capitaine vaudou, qui a un équipage de zombies et qui perce des petites poupées. Et dans le cinquième épisode, donc, on voyage vers le triangle des Bermudes, enfin, on commence par le triangle des Bermudes, et on cherche le trident de Poséidon, qui est censé donner une maîtrise complète des océans. À chaque fois, on a en toile de fond, parce que là, vraiment, la composante fantastique est au cœur de l'intrigue, c'est là-dessus qu'on construit l'essentiel du scénario, et la composante historique tient davantage lieu de toile de fond. Donc je ne vous le lis pas en totalité le tableau, mais vous voyez que systématiquement on a des repères qui créent quelques appuis chronologiques, géographiques, et également qui nous rappellent quelques grandes figures de la période, donc, que ce soit Cortés, Ponce de León, Teach, donc, alias Barbe Noire. On voit que dans le cinquième épisode, cette promesse historique est bien moindre, hein, puisqu'on a juste l'inauguration de la banque de Saint-Martin, et ensuite on part en mer, et on n'a quasiment plus aucun accrochage avec les civilisations européennes. Il y a donc des éléments de surnaturel qui sont traités à la sauce fantasy, c'est-à-dire de manière ludique. Il n'y a aucune volonté de nous faire croire en une quelconque validité de ces légendes. Et de manière très syncrétique, c'est-à-dire que vous avez vu qu'on peut se permettre d'articuler, de juxtaposer des choses qui viennent de temporalités et de traditions très hétérogènes. On a donc des sirènes, on a des sorcières, on a des dieux et des déesses, hein, je vous parlais de Poséidon, là on a donc la libération de Calypso, qu'on voit donc grandir le long du mât. On a des objets magiques. Alors, il y en a beaucoup. Le plus présent, c'est bien entendu le compas de Jack, qui n'indique pas les points cardinaux, mais l'objet que vous désirez le plus. Et puis, on a des lieux enchantés. La fontaine de Jouvence, donc dans l'opus 4, étant celle qui, à mes yeux, fait graphiquement l'objet d'un traitement le plus proche des films de fantasy. Et on a par ailleurs une composante historique qui, même si elle est très approximative, correspond à un phénomène de fond, qui est donc la poussée à la fois militaire et marchande, avec des plans qui mettent l'accent sur la symétrie, sur le côté très ordonné face au chaos des pirates. On a au contraire des grandes puissances européennes qui amènent de l'ordre, qui polissent les choses et qui amènent du commerce. La Compagnie des Indes étant donc le principal méchant en tant que personne morale, si vous voulez, des épisodes 2 et 3. Lorsqu'on va à Londres, donc dans l'opus 4, on a aussi donc ce travail sur la symétrie, sur l'ordre, qu'un personnage très picaresque comme Jack Sparrow vient bousculer à travers à la fois ses manipulations toujours un peu foireuses et sa capacité permanente d'improvisation, puisque se pose toujours la question quand il essaie de planifier les choses, il dit « mais moi je préfère improviser ». Donc c'est une espèce de feu follet qui traverse justement ces espaces très civilisés et civilisants avec capacité de déstabilisation énorme. Cinquième épisode, donc je disais, hein, l'inauguration de la banque de Saint-Martin avec ce fameux coffre. Alors j'essaie de ne pas trop spoiler, c'est un peu compliqué. Là, donc, on a une pénétration dans les Caraïbes, hein, de cet univers militaire et marchand, puisque l'inauguration de la banque se fait sous très haute couverture militaire, et en même temps, donc, on a le sommet, je dirais, du monde marchand, qui est donc l'arrivée de la finance, qui est représentée donc, dans ce cinquième opus. Et puis, dans la culture des pirates, eh bien, cette poussée se fait par la conversion des pirates de l'âge d'or en corsaires. Alors, c'est rarement aussi facile dans l'histoire telle qu'elle est documentée que la conversion de Barbossa, de capitaine pirate redouté, à proche de George II. Mais on essaie de tirer à grands traits donc, cette évolution historique. On a par ailleurs un travail d'exploitation des codes et des coutumes. Alors, est-il bien documenté ou non, c'est là aussi très problématique. Mais on travaille beaucoup sur la question des superstitions. On a des lois de la mer qui sont très souvent discutées. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ou pas? Est-ce que le code s'applique ou non? Notamment en cas de mutinerie, puisqu'il y a plusieurs belles scènes de mutinerie. Et on a les fameux pourparlers, le parler dont les personnages parlent à plusieurs reprises, surtout dans le premier et le troisième. Donc dès la capture d'Elizabeth Swann, donc dans le tout premier, elle invoque le code de Morgan et Bartholomew, qui est effectivement documenté par plusieurs auteurs de la période. Alors comme on est chez Disney, il faut que le code ait une visibilité plus forte, plus évidente. Et donc dans l'épisode 3, on a carrément un codex, un gros grimoire, qui représente donc ce code des pirates et qui est gardé par le capitaine Teague, donc le père de Jack Sparrow, joué par Keith Richards, qui dès qu'il n'a rien à faire donc prend une guitare. Donc là aussi le caractère historique du personnage est sujet à caution, mais voilà, il ne s'agit pas de proposer une lecture documentaire de Pirates des Caraïbes. On serait assez loin justement du jeu proposé par Disney. Les noms propres sont présents, mais comme tout dans cet univers maritime, ça flotte, et tenter de faire des recoupements historiques est une affaire un peu perdue. Donc on a des références à Cortés, à Ponce de León, à Madame Ching, donc la capitaine pirate qu'on voit donc dans le troisième épisode, puisqu'on commence à Singapour, au capitaine Teague et à Barbe Noire, donc le principal protagoniste adversaire de l'épisode 4. Au point de vue des choix narratologiques, nous avons énormément de récits enchâssés. C'est-à-dire que les personnages passent beaucoup de temps à expliquer aux autres l'origine des éléments surnaturels dont ils vont être témoins, et donc à mythifier le contenu des GT, pour reprendre l'expression d'Anne Besson, pour faire la distinction entre un fantastique qui surgirait et qui resterait fondamentalement inexplicable, destructif, et au contraire une fantaisie dans laquelle les éléments surnaturels font partie du paysage, sont justifiés, on en rend raison à défaut de les rationaliser, en tout cas on explique ce qu'ils font là. Et d'ailleurs il y a assez peu de scènes de saisissement, de surprise. Il y a bien entendu la première scène d'horreur dans le premier, où Elizabeth Swann découvre qu'elle est dans un équipage fantôme, mais ensuite on a plutôt une espèce de naturalité des monstres qui sont là. La question est de savoir pourquoi ils sont là et de savoir comment on s'en débarrasser, mais on n'est pas très surpris finalement d'être attaqué par un kraken. On préférerait qu'il attaque le bateau d'à côté, c'est entendu. Donc on raconte, le fait qu'il y ait plusieurs versions de la même histoire ne fait absolument pas problème, et dans cette série de récits enchâssés, ça peut être simplement du récit verbal ou très souvent du flashback. Il y a par ailleurs une thématique très répandue dans la fantasy, qui est celle de la lutte de pouvoir, alors avec des jeux très très puérils entre Sparrow et Barbossa, hein, donc avec ce plan resté également célèbre. Le fantasme d'un objet de pouvoir absolu, donc le coffre de l'homme mort dans l'épisode 2, si je contrôle le coffre de l'homme mort, j'ai le cœur du capitaine du Hollandais volant, et si je contrôle le Hollandais volant, je contrôle les mers. Dans l'épisode 4, le personnage d'Angelica promet un trésor qui permet de contrôler les mers et les vents, les marées et les vents. Et dans l'épisode 5, c'est le trident donc, de Poséidon, qui permet également d'avoir la maîtrise totale. Alors, je vous laisse bien entendu faire la jonction avec l'anneau unique, etc. Enfin, je ne vais pas à chaque fois, on est au deuxième jour, je pense que vous avez tous la culture de fantasy pour se dire, ah oui, effectivement, ça renvoie à tel ou tel personnage, à telle ou telle composante narrative. Et bien entendu, ce fantasme est voué à l'échec. C'est-à-dire que régulièrement, les protagonistes qui ont essayé donc, de nourrir cette quête de pouvoir vont se casser la figure dans les dernières scènes, avec donc, le déchaînement des forces qu'ils ont essayé de tenir donc, sous leur emprise. Il y a par ailleurs des héros qui meurent et qui reviennent, qui sont en quête d'éternité. Donc là aussi, les composantes, je ne vais pas faire la liste de tous les personnages qui font cela dans la fantasy. Donc le passage dans les limbes, en tout cas dans l'au-delà de l'épisode 3. L'idée, la tentation pour Jack Sparrow de devenir le capitaine du Hollandais volant pour accéder à l'éternité. La résurrection donc, de Barbossa par Calypso. la scène de la fontaine de Jouvence, alors que je trouve très arthurienne, mais lancez-moi les projectiles que vous voudrez, mais en tout cas ce surgissement de la sirène dans la fontaine de Jouvence me semble quand même très très inspiré d'un imaginaire de fantasy, beaucoup plus que du KPDP, disons. Et cette tendance donc des personnages à se retrouver dans des coïncidences qui n'en sont pas. C'est-à-dire qu'on a un destin qui fait que ces personnages sont amenés sans arrêt à avoir des chemins qui se croisent. Et enfin, on a beaucoup de papas, très peu de mamans. Et donc il y a des daddy issues dans quasiment tout le corpus. Tous les personnages ont une problématique paternelle très appuyée, parfois lourdement appuyée, et notamment donc le père de Jack, le père d'Angelica, donc qui s'avère, désolé je spoil encore, être Barbe Noire. Et dans le 5, on a carrément deux problématiques de papa, puisqu'on a le fils de Will Turner et la question donc du père de Karina qui se pose également. Donc, on a peu de mamans. Il y en a une maman qui apparaît à un moment de façon assez grinçante, hein, puisque voilà la maman de Jack Sparrow, dont Jack se félicite du parfait état de conservation. Et puis, on a une caractéristique qui me semble faire écho à des fortes tendances dans la fantasy contemporaine. Je pense notamment à Game of Thrones, mais également au travail de Jean-Philippe Jaworski, par exemple. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui se battent beaucoup, mais qui passent également beaucoup de temps à magouiller, à marchander. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est face à Jack Sparrow, à un Tyrion, à un Benvenuto, mais en tout cas, c'est une caractéristique forte, avec des jonctions fortes, également avec le picaresque, encore une fois. Donc, on négocie avec tout et tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut négocier avec la compagnie des uns, on peut négocier avec des morts-vivants. Et Jack le fait, mais Barbossa le fait également, avec à chaque fois l'idée que plus je négocie, plus j'accrois le fardeau de ma dette. Donc souvent je passe d'un état A qui n'était déjà pas très favorable, à un état B qui peut être catastrophique, parce que j'ai négocié de manière à relancer l'intrigue. Et notamment négocier avec la sorcière, c'est payer le prix du sang. Enfin, grosse composante narrative de la fantasy, je m'étends un peu dessus puisque ça a été beaucoup abordé, à partir du moment où j'ai une histoire qui est non cyclique, eh bien, je peux thématiser donc, la question de la disparition à la fois de la culture pirate et du merveilleux qui lui est attaché. Donc l'idée d'une page qui se tourne, une époque révolue, c'est central dans l'opus 3, qui est également le dernier qui est signé par Gore Verbinski, donc il y a aussi une page qui se tourne dans l'histoire même de la... du studio, avec notamment la mort très symbolique du Kraken, hein, qui était donc le monstre de l'épisode 2, et dont on découvre simplement le cadavre donc, dans l'épisode 3. Deuxième partie qui sera plus brève, la question des localisations et des articulations. Il y a deux manières d'articuler les choses, partir en mer et partir dans du récit. Notamment partir en mer en dehors des zones cartographiées, où donc on voit Barbossa, j'ai gardé le sous-titre anglophone, on voit Barbossa donc utiliser l'expression des cartographes, hein, ici il y a des monstres. La mer fonctionne comme une espèce de membrane, une surface osmotique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je pars en mer, il n'y a pas réellement de portail, mais en tout cas tout peut arriver. Les cartes ne servent que facultativement à trouver sa route. En fait, à chaque fois que les personnages se saisissent des cartes, ils vont sortir des cartes produites par les grandes capitales européennes pour s'appuyer sur des cartes beaucoup plus bizarres, beaucoup plus apocryphes et parfois dynamiques, hein, comme la carte des Chinois qu'on a ici. Et donc on voit d'un côté les grandes civilisations qui s'appuient sur une cartographie extrêmement rationnelle, et puis au contraire des repères cartographiques qui parfois partent en fumée, qui sont beaucoup moins décidables. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on essaie d'avoir une navigation au sens traditionnel, c'est-à-dire je prends mes instruments et je me dirige, on s'aperçoit que les personnages se perdent. Donc les repères à I sont en général éloignés des grands repères accent grave. On a bien entendu des formes classiques d'incrustation à l'écran, des toponymes. Donc on sait qu'on est à Londres, on sait qu'on est à Saint-Martin, on a un travail de reconstitution qui est fait de façon assez professionnelle. Et puis, dès qu'on prend la mer, on va arriver sur des paysages beaucoup plus improbables, comme ce bateau donc perché sur la falaise, ou comme ces baies des naufragés, où on est beaucoup plus dans l'univers d'un John Ho que dans l'espace graphique d'une reconstitution historique. L'idée hein, est que c'est lorsqu'on se perd, lorsqu'on sort des cartes, qu'on va trouver l'introuvable et on ne peut les suivre que si on est embarqué justement dans cette quête de l'introuvable. C'est un peu le village des Schtroumpfs, si vous voulez. Hein. On ne va trouver le village des Schtroumpfs que si on est conduit par quelqu'un qui est dans cette démarche-là. L'éclatement des terres et des noms fait qu'on peut avoir dans cet archipel caribéen, aux frontières finalement assez floues, une très grande variété de paysages, hein, le repère de Tia Dalma, donc personnage vaudou, l'au-delà dans lequel on vient chercher Jack mort, l'île des naufragés, où là vous voyez que l'onomastique a changé, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur Saint-Martin, Londres, on est sur des termes de navigateurs, tout comme on va dire la baie des sirènes, on pourrait mettre des majuscules ou non finalement sur ces éléments-là, parce que ce sont plus des lieux-dits que réellement des toponymes. Et on peut avoir donc des visions très marquées par un imaginaire fantastique, donc comme l'île du Trident de Poséidon, donc sur le dernier opus. Et puis partir en mer, c'est rencontrer des équipages et discuter avec eux. C'est-à-dire que non seulement on rend raison de la présence du surnaturel, mais on en fait des créatures sociales avec lesquelles on va négocier. Il y a des belles scènes de ponts ou de cachots. On passe beaucoup de temps enfermé dans les cachots de l'adversaire. Et on va cohabiter donc avec des personnages. Et au bout d'un moment, c'est tout à fait normal d'être en train de discuter avec un homme poisson, avec un zombie ou avec un fantôme. Donc ces formes de rencontres ne se font qu'en mer. On a, la mer est également donc, un espace de socialisation entre les humains et les monstres. Enfin, c'est bien entendu un espace de bataille, je passe rapidement, puisque ce sont les scènes les plus célèbres hein, au fil des différents épisodes du cycle. Dernier élément, on va rencontrer, donc on va faire se rencontrer les éléments factuels et folkloriques à travers le jeu de légendes et de superstitions. Les gens passent leur temps, je l'ai dit, à se raconter des histoires et surtout à essayer de faire croire aux autres, à exploiter la superstition, la crédulité des autres. Hein. On voit Elizabeth Swann, par exemple, se faire passer pour un fantôme pour voyager clandestinement. Barbossa se félicite du fait que Dame Fortune est dans son camp. Et à chaque fois que le naturel va vers le surnaturel, se pose la question de la crédibilité des légendes, avec parfois des héros qui prêchent un peu dans le vide, hein, puisqu'ils sont les seuls à croire, par exemple, en la dangerosité du triangle des Bermudes. Pour être un héros dans Pirates des Caraïbes, il faut savoir se battre, il faut savoir marchander, mais il faut surtout savoir quelle est la légende qu'il faut croire sur cet opus-là. C'est-à-dire, la plupart des légendes sont fausses, sauf une. Et ce qui vous signale comme héros, c'est que vous allez croire juste ce qu'il faut de surnaturel, parce que c'est ce qui a été choisi comme épisode élément crédible du surnaturel, élément en tout cas pertinent du surnaturel pour cet épisode-là. Et donc on a régulièrement des confrontations entre personnages sur est-ce que tu y crois, est-ce que tu n'y crois pas, jusqu'au jeune Turner donc, qui essaie de prévenir l'équipage britannique qu'il ne faut surtout pas foncer vers le triangle du diable. Les légendes, par ailleurs, grand trait également de la fantasy, ne sont pas que narratives et descriptives, elles sont prescriptives. Elles disent ce qu'il faut faire, il y a souvent des énigmes qui leur sont attachées. Il y a des déontiques, hein. Le Hollandais volant doit avoir un capitaine, des marqueurs de ce qui doit advenir pour que l'état du monde soit préservé, des rituels, des incantations, et des marches à suivre pour arriver à lever une malédiction, à retrouver un objet, c'est-à-dire qu'il y a toujours un côté, entre guillemets, recette de cuisine dans la légende qu'on raconte, qui va contribuer donc à construire le récit. Donc, pour conclure et raccrocher donc cette présentation à la thématique qui était proposée, et notamment la notion d'histoire fantasy qui figure juste là, dans l'appel à communication du colloque, on voit que dans ce cycle Pirates des Caraïbes, on a trois points d'ancrage qui me semblent très forts dans la fantasy. D'une part, le travail donc, de mythification du matériau diégétique qui est sans arrêt narré, renarré, représenté au protagoniste pour rendre raison de sa présence. Deuxième chose, il y a un travail de coalescence des mythes, pour reprendre l'expression d'Anne Gessler, sur ces légendes maritimes qui sont parfois issues donc, de temporalités ou de traditions très, très diverses et sur lesquelles on va trouver des articulations assez inédites. Enfin, il y a cette vision nostalgique d'un monde qui est amené à son crépuscule, à la fois le crépuscule sociologique des pirates et le crépuscule donc, des légendes qui leur sont attachées. Sur l'histoire, il y a effectivement un double usage donc, de substrat diégétique qui traverse le cycle, donc une histoire des faits, et par ailleurs une histoire des légendes qui, de façon plus épisodique, de façon plus étanche d'un épisode à un autre, va servir de substrat narratif, de substrat de l'intrigue de chacun des épisodes. Et à la limite, on pourrait changer le substrat d'un épisode, on pourrait le remplacer par un autre, sans modifier le substrat diégétique qui est relativement stable dans le cycle. Donc, ma proposition au niveau conceptuel, pour rebondir sur ce qui était présenté, la notion d'histoire-fiction comme pendant à science-fiction, c'est de dire, je pense qu'il y a deux usages distincts, en fait. Il y a effectivement de l'histoire-fiction au sens où on va utiliser la linéarité de l'histoire pour renouveler un peu les thématiques de la fantasy. Et donc, c'est typiquement le destin d'un Bardossa, hein, qui revient entre les morts et qui suit le vent de l'histoire, finalement, se fait corsaire, se met au service du roi Georges. Tandis qu'on a un folklore fiction, hein, on ne sait pas qui d'autre utilisera le terme, mais en tout cas, c'est un terme qui me parle, pour décrire plutôt le destin d'un Jack Sparrow, qui, lui, reprend toujours la mer à la fin de chaque épisode, repart vers son ami l'horizon, et finalement rejoint les personnages de la fiction populaire dans son caractère très cyclique et très réapparaissant. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
Merci Olivier pour cette présentation tout à fait dynamique, et puis ça nous a apporté beaucoup d'éléments, moi je trouve, sur Pirates des Caraïbes. Alors, est-ce que dans la salle, nous avons des questions pour Olivier Caïra concernant sa communication ?
Oui, ben, je vais ouvrir. Non, mais en fait, c'est pas particulièrement une question, je vais vous lever évidemment, mais c'est une précision. C'est que le film de 2003 n'a pu être produit qu'au moment où ils ont introduit le surnaturel. Concrètement, la dernière production piratesque de Disney à ce moment-là, c'est en 96, une nouvelle adaptation des Robinson Suisses, et c'est une catastrophe économique. Donc ils ne veulent plus du tout entendre parler pirates. Gore Verbinski arrive avec sa proposition, et le seul producteur qui va l'écouter, c'est Jerry Bruckheimer. Mais Jerry Bruckheimer s'oppose, il dit non, les pirates, c'est pas possible. Et c'est au moment où l'idée de rajouter du surnaturel, apparemment en grande partie d'ailleurs sur la suggestion de Bruckheimer, que cette fois-ci, il est convaincu. Donc c'est vraiment ça qui lance le truc. Donc d'une certaine manière, le film de pirate, le côté historique, n'est possible que à la condition du surnaturel. Hein, c'est, en fait, bon, c'est, à ce moment-là, c'est clairement les morts. Hein, c'est le fait que c'est Verbinski, mes morts ne sont, enfin, les pirates ne sont pas des pirates, en fait c'est des fantômes. Ah, là ça marche. Et donc, c'est comme ça que le film.
Je me demande si les Lego ou les Playmobil, un pirate zombie, existaient avant ou après. Mais les pirates sont des morts.
Ça n'existe pas non plus dans l'attraction.
D'accord.
L'attraction.
Les uniques pirates Playmobil qui sont vendus sont des fantômes. Hein. C'est des pirates fantômes. Ça va pas ensemble. Tu parlais de promesses d'historicité dans ton titre. Je trouve que le contrat de genre qui est passé, il repose justement sur une promesse d'historicité dans le pacte de départ.
Alors,
ça rejoint un peu la question.
Il y a une promesse de vectorialité de l'histoire. C'est-à-dire qu'on n'est clairement pas sur une promesse d'exploitation de tel ou tel épisode historique. Et ça rejoint un petit peu la discussion qu'on a eue hier sur l'histoire et l'Uchronie. Le problème est de savoir quel est le niveau de connaissance supposé du spectateur modèle, c'est, si tu veux, de l'équivalent de notre lecteur modèle en théorie littéraire. sur cette histoire de la piraterie, où finalement on s'aperçoit que les connaissances de, du Pékin moyen sont très limitées sur les grands épisodes. Donc il n'y a pas du tout l'idée d'exploiter tel ou tel épisode de façon précise. L'attaque sur Port-Royal, par exemple, dans le premier épisode ou la visite à Singapour, on est dans du n'importe quoi, tout à fait assumé, je pense, de la part des scénaristes. On est, en revanche, dans l'idée que, par rapport à un récit orienté vers un temps cyclique, là, on a ce processus de civilisation des Caraïbes qui s'approfondit quand même d'un épisode à l'autre, et cette mise au cordon que j'ai essayé de montrer à travers les captures d'écran très symétriques, qui se voit déjà dès le premier épisode, donc avec les scènes d'exécution de Jack notamment. Et donc, je n'irais pas promesse d'historicité au sens d'exploitation fine d'un événement, ce qui me semble être la marque de fabrique typiquement d'un studio comme Ubisoft quand ils font les Assassin's Creed, par exemple, là où on essaye d'avoir des éléments les plus encyclopédiques possibles à proposer aux joueurs, mais on est dans quelque chose de relativement, alors pas neuf parce que d'autres l'ont fait, mais au cinéma c'est assez rare, d'une fantasy qui n'est pas détachée du vent de l'histoire. Mais encore une fois, je pense que la promesse d'historicité peut aller beaucoup plus loin. Et que c'est un peu faute d'un équivalent plus détaillé au niveau de la documentation historique que je me suis appuyé sur Pirates des Caraïbes. Si vous avez des corpus cinématographiques, en série télé, on en a plein, mais en cinéma, c'est plus compliqué. Si on a des corpus à me proposer, je suis très client.
C'était un très bon corpus, mais du coup, c'était aussi une question qui éventuellement t'aiguillait vers ce qui était l'autre partie de ta proposition dont on avait parlé ensemble, qui était l'histoire des chasseurs de bouffe, de ces gens qui travaillent là-dessus, qui pissent les erreurs de raccord, de montage, les petits anachronismes, etc., qui travaillent beaucoup, entre autres, sur là-dessus. Et du coup, est-ce qu'ils ne sont pas aiguillés à chercher de l'anachronisme par, justement, ce qu'ils pourraient percevoir comme une promesse d'historicité non tenue ou mal tenue ?
C'était ma piste initiale. Alors, petit exemple, hein, là, on a une belle trace de pneu dans les graviers, alors que Will Turner sort de la résidence du gouverneur. Donc là, on est sur un... On n'est pas tellement sur l'anachronisme, on est sur une visibilité des conditions de tournage, qui est une autre forme d'anomalie. Mais par exemple, le morceau de sucre, qui est apparemment une invention du 19e siècle et qui apparaît ici au 18e, les lignes de plimsoll sur les niveaux qui apparaissent sur les coques des bateaux, qui sont là aussi très anachroniques. Bien entendu, dès lors qu'on a des bateaux, des armes à feu, des uniformes, les chasseurs d'anachronisme sont aux aguets. Et ils s'en donnent à cœur joie avec Pirates des Caraïbes, même si globalement ils trouvent assez peu de choses, hein, parce que le travail de documentation a été assez poussé. Mais alors, ce qui m'intéressait avec ces chasseurs d'anomalies, c'est le dédoublement de leur regard. C'est-à-dire que quand un navire britannique est en train d'affronter un vaisseau fantôme, ils vont garder les armes du navire britannique en disant c'est pas possible, là c'est par exemple. Le calibre n'est pas bon, etc., ou l'arme est anachronique, et juste après, ne pas du tout être gêné par le fait que l'autre navire vient de surgir des flots et est capable de tirer des boulets de canon, aucun problème. Mais ils vont avoir une quête de cohérence dans le contenu légendaire, en disant, par exemple, le capitaine Barbosa, mort-vivant, vient de dire que les pirates fantômes ne ressentaient plus rien. Or, quand Raghetti reçoit des charbons ardents, il crie « c'est chaud, c'est chaud ». Et quand Barbossa lui-même prend la robe d'Elizabeth Swann, il dit « elle est encore chaude ». Donc là, on a des incohérences. Et donc, c'est ce dédoublement du regard qui me faisait penser au départ à l'idée d'une cohabitation historico-fantastique assez... pas inédite, mais en tout cas assez, assez, intéressante à travailler sur Pirates des Caraïbes en particulier. Après, c'est vrai que la notion de promesse ne va pas aussi loin que dans d'autres films historiques, clairement, et notamment les chasseurs d'anomalies vont être beaucoup plus intransigeants au fur et à mesure qu'on leur dit que le travail a été fait avec des historiens. On a une intransigeance de ces chasseurs d'anomalies qui est au diapason de ce qu'annonce le studio. Donc là, ils ont une grosse indulgence.
Bon. On a encore une question.
Une dernière question.
Hein. Voilà.
Oui, par rapport à ce que vous venez de dire là sur les chasseurs de monstres, c'est décalage. C'est intéressant qu'ils en parlent hier avec Maureen notamment. Ils étaient séparés sur les cycles médiévalistes, ce genre de choses. Mais effectivement, les gens vont beaucoup critiquer par exemple la présence de personnes racialisées donc dans le cadre du 19e siècle en disant ah, c'est pas possible qu'il y ait eu un black dans l'armée de Henri II, alors qu'en même temps il y a des dragons. En fait, on voit bien qu'il y a une espèce soit de suspension de la crédibilité, soit au contraire de recherche de la critique sur certains trucs. Alors que voilà, on accepte le kraken, mais on n'accepte pas le morceau de sucre.
Et ça, c'est intéressant d'aller sur le site IMDb. Et de voir donc, dans la section gouffre hein, toute la partie des gouffres qui n'en sont pas. Donc c'est donc regarder incorrectement comme considérer incorrectement comme des gouffres hein, la sous-catégorie. Et là, ça a fait l'objet donc d'une discussion entre chasseurs d'anomalies pour savoir si ou non il y avait anachronisme. Et on peut avoir des discussions assez poussées. C'est également le cas sur la question encore une fois d'une malédiction. Pourquoi le petit singe mort-vivant qui traverse tout le corpus reste-t-il maudit ? Ah bah oui, mais c'est parce que t'as pas bien regardé, il a encore piqué une pièce de l'or aztèque, etc. Donc il a relancé la malédiction. Et donc entre chasseurs de gouffres, il n'y a pas consensus sur est-ce que c'est simplement une espèce de licence poétique hein, ou est-ce que c'est une erreur grossière ? Est-ce que c'est la faute du réalisateur, du monteur, d'accessoiriste, etc. C'est intéressant comme milieu parce que c'est un milieu qui est traversé par des débats. De la même façon que lire une page Wikipédia donne l'impression qu'il y a consensus, lire les discussions sur la page Wikipédia vous montre qu'en réalité c'est un champ de bataille.
Merci.